France Inter.
Bonjour Thomas et bonjour à tous. À la une de ce 13h, la France qui dit ce matin qu'elle ne laissera pas faire après le refus des États-Unis d'octroyer des visas à la délégation palestinienne qui doit se rendre le mois prochain à l'ONU. Et nous verrons avec Louise Baudet que ce n'est pas une première de la part des États-Unis. En France, c'est un week-end de rentrée politique. Le PS est à Blois. Les socialistes ont présenté ce matin leur contre-budget 2026. Et dans le Val-de-Marne, c'est Édouard Philippe qui s'apprête à dire comment il envisage l'avenir avec son parti Horizon. Nous irons à Évreux, où le conducteur d'une voiture aurait délibérément percuté un groupe de personnes la nuit dernière. Il y a un mort, 5 blessés, 3 personnes sont en garde à vue à Évreux. À 2 jours de la rentrée scolaire, nous verrons le problème que rencontrent des collégiens de la commune de Cheval-Blanc. C'est dans le Vaucluse, depuis que plusieurs arrêts de bus scolaires ont été supprimés. Nous verrons qu'en Belgique, la vitesse de certains modèles de trottinettes pose problème. Le gouvernement belge envisage d'ailleurs de durcir les sanctions. Et puis je vous proposerai en fin de journal la visite à Lyon d'un jardin atypique, jardin ouvert au public le samedi. Enfin, le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec cette nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest.
Oui, elle concernera surtout le quart nord-ouest. Pour les autres, ce sera encore calme avec des éclaircies.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Voilà donc la France vent debout contre le refus des États-Unis d'accorder un visa à la délégation palestinienne qui doit se rendre fin septembre à New York, à l'ONU, pour une session durant laquelle la France défendra la reconnaissance d'un État palestinien. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ne veut donc pas en rester là.
On peut rappeler, suite aux annonces qui ont été faites ces dernières heures, que le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité. C'est un sanctuaire au service de la paix, où sont résolus les conflits, où sont empêchées les guerres. Et que de ce point de vue-là, une Assemblée générale des Nations Unies, fondée il y a 80 ans, par la France, entre autres pays fondateurs, ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer à ce sujet avec mes collègues européens.
Voilà, Jean-Noël Barrot à Copenhague, où il participe au Conseil européen des ministres des Affaires étrangères. Je rappelle que c'est le Danemark qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne. Et bonjour Louise Baudet.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Rédaction internationale de Radio France. Les États-Unis de Donald Trump refusent donc de donner des visas à une délégation palestinienne qui doit se rendre à l'ONU. Eh bien, ce n'est pas une première.
Eh oui, cela remonte à novembre 1988. L'administration Reagan refuse alors l'entrée sur son territoire de Yasser Arafat et de sa délégation, accusée de soutenir le terrorisme. Résultat, l'Assemblée générale de l'ONU part se réunir à Genève, au lieu de New York, afin que le chef de l'OLP puisse s'exprimer à sa tribune. Une délocalisation suggérée ce matin par l'un des collègues de Jean-Noël Barrot, présent à Copenhague, le luxembourgeois Xavier Bettel. On n'en est pas encore là, mais le sujet pourrait monter si les États-Unis persistent. Dans le viseur américain, vous l'avez dit, la reconnaissance de l'État de Palestine et la dynamique engagée par Emmanuel Macron cet été. Une dizaine d'autres pays, dont le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, doivent s'y associer dans 3 semaines lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Or, les États-Unis ne veulent pas de cette reconnaissance. Pas d'État palestinien, donc pas de représentant légitime, donc pas de visa. Logique au diapason de celle du gouvernement israélien engagé dans la destruction de Gaza et dans l'accélération de la colonisation de la Cisjordanie. Et nouvelle preuve du soutien indéfectible que lui accorde l'Amérique trumpiste.
Louise Baudet, rédaction internationale, est toujours aux États-Unis. Ce sera à la Cour suprême de trancher en dernière instance, puisqu'une cour d'appel fédérale américaine estime qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux. Gros revers donc pour le président américain, même si les droits de douane litigieux restent en place pour le moment. Or, si la Cour suprême devait confirmer l'illégalité de ces taxes, eh bien les États-Unis devraient rembourser d'énormes montants. Mais pour Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, il y a bien peu de chances que les États-Unis fassent marche arrière.
Dans son jugement, la Cour d'appel a été quand même assez diligente vis-à-vis de l'administration Trump, car elle laisse jusqu'au 16 octobre pour faire en sorte que ces droits de douane deviennent caduques à l'issue du jugement. Ça veut dire qu'évidemment, les juges en appel ont donné le temps à l'administration Trump de se retourner, de saisir donc la Cour, évidemment, suprême. On sait que la Cour suprême aujourd'hui est à la main donc de l'administration américaine, la Cour d'appel avait la possibilité de les rendre caduques tout de suite. Elle ne l'a pas fait, donc j'invite nos auditeurs à réfléchir à la raison de cette plage de temps.
Thierry Breton, ce matin sur France Inter avec Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho. Autre revers de taille encore pour la Maison Blanche, une juge fédérale a bloqué la procédure d'expulsion de migrants des États-Unis. Cela concerne uniquement les procédures accélérées, celles qui sont sans comparution devant un tribunal. Encore une attaque d'envergure, une attaque russe d'envergure la nuit dernière en Ukraine. La plupart des 600 drones et missiles tirés par la Russie ont été abattus. De son côté, l'armée ukrainienne dit avoir bombardé dans la nuit deux importantes raffineries de pétrole russe. Notez encore qu'en Ukraine, un député, ancien président du Parlement, a été tué par balle ce matin dans la ville ukrainienne donc de Lviv. C'est à l'ouest du pays. Volodymyr Zelensky déplore un meurtre horrible et il promet une enquête pour établir les circonstances.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
La famille socialiste habite dans le Loir-et-Cher ce week-end pour son campus de rentrée à Blois. Les socialistes aimeraient prendre la tête d'un gouvernement de gauche si François Bayrou était mis en minorité dans 10 jours. Laurence Perron, vous êtes en direct de Blois. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, ce matin, les socialistes ont présenté leur contre-budget pour remplacer les 44 milliards d'économies qu'envisage François Bayrou.
Oui, et Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, l'a introduit en interpellant le chef de l'État en mode Audiard.
Monsieur Macron, cela suffit. Vous qui vous pavanez devant votre nouvelle villa que vous avez achetée, est-ce que c'était vraiment le moment d'étaler une richesse indécente au regard de la souffrance de nos concitoyens? La Macronie, ça ose tout. C'est d'ailleurs comme cela qu'on la reconnaît.
Alors après, ce sont surtout des chiffres. Au plus de 10 millions de Français qui vivent désormais sous le seuil de pauvreté, les socialistes opposent le patrimoine des 500 plus riches qui en 30 ans est passé de 80 à plus de 1000 milliards d'euros quand les aides aux entreprises ont atteint plus de 200 milliards d'euros par an. Ils doivent mettre la main à la poche, la taxe Zuckmann, 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, faire le ménage dans les niches fiscales, par exemple réserver le crédit d'impôt recherche aux entreprises qui sont véritablement dans l'innovation, en exclure les grands groupes qui, comme Carrefour par exemple, peuvent le toucher. Restaurer enfin le pouvoir d'achat des travailleurs en baissant la CSG sur les petits salaires jusqu'à 1,4 SMIC. Les socialistes chiffrent ce gain entre 900 et 1500 euros. Parmi les mesures phares, un grand plan d'investissement vert, abroger bien sûr la réforme des retraites. Enfin, le PS affirme que personne en Europe n'impose une réduction de la dette aussi drastique que celle proposée par François Bayrou. Plutôt que 44 milliards tout de suite, autour de 27 milliards l'an prochain, soit un objectif de retour à 5% du PIB en 2026 et à 3% en 2032. Le Parti socialiste se veut le parti des solutions, dit-il, pas de la récession, pas de la destitution.
Laurence Perron, en direct du campus des socialistes à Blois, avec les moyens techniques de Romain Lucquiens. Autre rentrée politique aujourd'hui, celle du parti Horizon. Ça se passe à Suzy-en-Brie, c'est dans le Val-de-Marne, avec à sa tête l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, sur la route qui mène à l'Élysée. L'ancien chef du gouvernement d'Emmanuel Macron a pris d'ailleurs ses distances avec l'Élysée, surtout depuis la dissolution. Il cultive désormais sa différence, tout en recyclant sa propre conception du en même temps, bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Édouard Philippe prononcera son discours de rentrée à 16h30.
Oui, Édouard Philippe s'est dégagé du temps ce matin pour écrire un discours tourné vers la jeunesse et l'avenir, selon son entourage. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron doit aussi évoquer le dernier chamboulement politique avec la décision de François Bayrou d'engager la responsabilité de son gouvernement. Il s'est déjà exprimé à ce sujet. Édouard Philippe, seul candidat officiellement déclaré pour 2027, cultive toujours une voix singulière au sein du camp présidentiel. Il s'interroge sur le choix de François Bayrou de convoquer un vote de confiance sans justement, dit-il, avoir essayé de construire cette confiance. Alors face à ce pari très risqué, le patron d'Horizon estime que la dissolution, en cas de chute très probable du gouvernement, est inéluctable. Mais celui qui aime répéter qu'il est loyal et libre cherche le bon équilibre pour ne pas avoir à assumer le bilan d'Emmanuel Macron, pour incarner un vote alternatif à la présidentielle et en même temps rester fidèle à ses convictions. Concrètement, si Édouard Philippe ne se prive pas de critiquer le camp présidentiel, il approuve le langage de vérité de François Bayrou sur la situation financière de la France, lui qui a fait de la rigueur budgétaire un credo.
Sonia Gobry, vous parliez du vote de confiance qui pourrait renverser le gouvernement Bayrou. Il aura lieu le 8 septembre. Eh bien, au Rassemblement National, on commence à s'impatienter. On ne peut pas tenir 2 ans comme cela, disait ce matin Jordan Bardella, qui appelle donc le président Macron à prononcer la dissolution. Que s'est-il passé dans le centre d'Évreux? Le conducteur d'une voiture aurait délibérément percuté un groupe de personnes la nuit dernière. Il y a 1 mort, 5 blessés et 3 personnes sont en garde à vue, Bradley de Souza.
Le conducteur de la voiture a percuté ce groupe de piétons délibérément. D'après les premiers éléments de l'enquête, tout est parti d'une bagarre dans un bar à vin avenue Winston Churchill dans le centre-ville d'Évreux, notamment entre une jeune femme et plusieurs hommes. Les videurs et le gérant de l'établissement décident de les faire sortir. D'après le procureur, c'est à ce moment-là qu'un individu part chercher une voiture et recule à grande vitesse. Un homme de 30 ans décède. Il y a 5 autres blessés, dont 2 sont en urgence absolue. Quant au conducteur de la voiture, il a été interpellé, tout comme 2 autres suspects. Au total, 3 personnes sont en garde à vue, 2 hommes et 1 femme, toujours d'après le procureur d'Évreux, qui écarte d'ores et déjà la piste d'un acte terroriste ou raciste.
Bradley de Souza, ici Normandie, ex-France Bleu. À la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, certains détenus ont rouvert les robinets la nuit dernière en bouchant les lavabos. Nouvelle tentative d'inondation du bâtiment, la 3e cette semaine. Et bien cette fois, la vidéosurveillance a permis d'anticiper l'inondation. Les personnels ont très vite coupé l'arrivée d'eau dans les cellules. Notez encore qu'à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, un homme armé d'un couteau a été interpellé ce matin après avoir proféré des propos antisémites à proximité d'une synagogue. Ce sera lundi, et la rentrée des classes. Et bien dans la commune de Cheval-Blanc, des habitants ont découvert que 7 arrêts de bus scolaires sont supprimés cette année. Cheval-Blanc, c'est dans le Vaucluse. Ce serait à cause de la dangerosité des arrêts. Le chauffeur n'aurait pas la place suffisante pour s'arrêter en toute sécurité. Et bien tout cela va douloureusement compliquer le quotidien des collégiens qui devront se rendre au collège de Cavaillon en marchant 2 km, soit environ 45 minutes. Les parents d'élèves tentent de se faire entendre. Adèle Chiron, vous les avez rencontrés.
Au bord de la départementale, à l'entrée du chemin de Redortier, se trouvait un arrêt de bus.
Voilà, le panneau était là.
Hélène Aubin, maman de 2 enfants, dont un collégien, s'est rendu compte que le panneau a été enlevé cet été.
J'ai appelé Zou, j'ai envoyé un mail et c'est eux qui m'ont gentiment répondu que mon arrêt avait disparu. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas que mon arrêt de bus qui avait disparu, c'était 7 arrêts de bus consécutifs.
Alors les enfants vont devoir marcher 2 km jusqu'à l'entrée de la commune.
Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de trottoir. Il y a 10 cm entre la route et le ruisseau.
Il faut penser que là, on est en été et en hiver, les enfants marcheront au bord de la route en pleine nuit.
D'autres parents n'ont pas le permis, comme cette maman qui a déjà fait la route à pied.
45 minutes pour y aller. Plusieurs fois, j'ai failli me faire renverser par les voitures. Hein.
Comment il va faire votre enfant, vous savez?
Mais moi, franchement, il n'aura vraiment pas le choix. J'ai mal au ventre de savoir qu'il va devoir aller à pied. Hein. Il a 11 ans, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc. Hein.
Ils ont donc envoyé des lettres au réseau de bus. Et la réponse?
Au titre de l'année scolaire 2025-2026, les services ont identifié plusieurs points d'arrêt dangereux à supprimer sur le secteur de Cheval Blanc. Voilà. Si c'est dangereux pour un bus, c'est aussi dangereux pour nos enfants qui marchent au bord de la route. C'est pire même, c'est pire.
Hélène Aubin a même invité la direction du réseau Zou à venir dans son quartier pour faire ses 2 km de marche avec elle. Pour le moment, elle n'a pas reçu de réponse.
Reportage ici Vaucluse, signé Adèle Chiron. Ils sont en ce moment 45 départements qui doivent appliquer des restrictions d'eau. C'est 2 fois plus que l'an dernier à la même période. Le plan sécheresse est donc activé après un été particulièrement chaud. Une séquence hors norme, explique cet ingénieur hydrologue Charlène Descollonges.
On a des sols qui sont effectivement très secs, mais aussi on a des cours d'eau qui sont très très bas, ou voire complètement à sec, et des nappes qui sont aussi très très basses par rapport au normal de saison. On se base bien sur des statistiques qui sont très longues, donc cet épisode est en dehors des normes.
Il y a eu la longue canicule du mois d'août et déjà un mois de juin particulièrement éprouvant. C'est ça qui vide, par exemple, les nappes phréatiques?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois la température, et ces températures anormales qui sont les effets du changement climatique aggravent le phénomène. Et il y a aussi, évidemment, le déficit de pluie. On a un été qui est relativement peu arrosé. Dans certaines régions, on a eu un printemps qui était relativement peu arrosé aussi. Là où on aggrave, je dirais, le problème, c'est lorsqu'on a des prélèvements en eau qu'ils soient dans les cours d'eau ou dans les nappes, qui sont supérieurs à la capacité de renouvellement naturel des hydrosystèmes.
L'ingénieur hydrologue Charlène Descollonges, invitée ce matin de nos collègues de France Info. À propos des déplacements, voilà une question récurrente. Comment faire cohabiter les différents moyens de locomotion? Car depuis quelques années, les trottinettes sont venues percuter les règles du jeu. Eh bien, en Belgique, le gouvernement envisage de sévir contre les vitesses excessives de certains modèles de trottinettes vendus en magasin. Et cela fait débat en Belgique. Reportage dans un magasin bruxellois avec notre correspondant Fabien Cazot.
À seulement 16 ans, Raoul est sur le point d'acheter sa deuxième trottinette électrique. Il prend conseil auprès du chef d'atelier du magasin Street Ride, Alexandre Apremont.
T'as quand même une autonomie de 80 km, donc t'as une bonne autonomie.
Le jeune homme est surtout en recherche de vitesse.
C'est une idée que j'ai de m'acheter une trottinette débridée, surtout que j'habite à la campagne, en dehors de Bruxelles. Du coup, c'est un peu long d'aller à 25 sur ce long chemin.
25 km/h, c'est la vitesse limite autorisée en Belgique pour les trottinettes électriques. Cet autre utilisateur, Timothée, qui naît à domicile, dit s'y conformer scrupuleusement par peur des accidents.
J'ai déjà eu un souci sur un rond-point. La personne ne m'avait pas vu sur le rond-point et m'a percuté. Heureusement, j'ai rien eu. J'ai juste eu la trottinette en deux morceaux, mais à part ça, tout allait bien.
Sévir contre la vitesse excessive, d'accord, mais selon le gérant du magasin Street Ride, Jonathan Hart, c'est loin d'être le seul problème.
Tout à l'heure encore, juste devant le magasin, ils étaient deux sur une trottinette, il y a la voiture de flic qui les voit, ils voient la voiture de flic, ils sont juste descendus un peu sur le côté, la voiture de flic elle a continué, et après ils sont remontés, ils sont repartis. Voilà. Donc les 25 km, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens s'en foutent de tout. Ils passent au rouge, ils sont plusieurs dessus, ils portent pas d'équipement. Ce serait à 10 km/h, ce serait la même chose. C'est le conducteur qui pose le problème, c'est pas l'engin.
En Belgique, la proportion d'utilisateurs de trottinettes électriques a été multipliée par 4 depuis 6 ans.
Fabien Cazot, notre correspondant en Belgique. En sport, ce sera le rendez-vous basket de la journée à 17h. La suite du championnat d'Europe basket, donc la France face à la Slovénie. Les Slovènes emmenés par leur superstar Luka Doncic. Le joueur s'était révélé il y a 8 ans lors d'un championnat d'Europe, Vincent Pellegrini.
C'était effectivement un moment clé de la carrière du prodige slovène. À seulement 18 ans, il avait impressionné tous les observateurs, s'était fait connaître du grand public et fut l'un des principaux artisans de la victoire finale de la Slovénie. Premier grand titre de ce pays en sport collectif. Les fins connaisseurs du basket avaient déjà repéré le talent de Luka Doncic, qui dès l'âge de 16 ans jouait en équipe senior du Real Madrid. Jamais un joueur aussi jeune n'avait connu cela. Quelques mois après ce sacre européen, Luka Doncic a pris son envol vers le championnat NBA. Il s'est très rapidement imposé au sein des Dallas Mavericks, où sa polyvalence a fait merveille. Avant ce transfert, l'un des plus retentissants de ces dernières années en NBA, ce départ vers les Los Angeles Lakers en février dernier. Et désormais, il caresse l'espoir de décrocher un nouveau titre avec son équipe nationale dans un Euro dont il est l'une des principales attractions.
Vincent Pellegrini. Près de 2000 fêtards sont rassemblés en ce moment depuis la nuit dernière pour une rave party. C'est sur la commune de Fonjoncouze, c'est dans l'Aude, en plein milieu du massif des Corbières. Ce même massif est touché au début du mois par un gigantesque incendie. Avant de refermer ce journal, je vous propose une visite, la visite d'un petit jardin. C'est à Lyon, jardin niché près de l'hôpital de la Croix-Rousse, un lieu qui rappelle le palais du facteur cheval dans la Drôme. On le doit, ce petit jardin de la Croix-Rousse, à un maçon réfugié de la guerre d'Espagne. Il s'appelle Jules Sénis. Il a aménagé ce jardin entre 1958 et 1983 avec des pierres, avec des coquillages. Jardin qu'il a finalement dédié à sa mère, Rosa Mir. La ville de Lyon en est propriétaire depuis 2016. Il est ouvert au public, ce jardin, et c'est un beau succès de fréquentation. D'ailleurs, l'an dernier, 12 000 personnes l'ont visité. Reportage de Christophe Vincent.
Dans une cour de 400 mètres carrés, Jules Sénis-Mir a créé un jardin insolite, mariage harmonieux de minéral et de végétal. Des colonnes et des traverses sont ornées de cailloux et de coquillages par milliers, les allées bordées de plantes très variées, de l'art brut selon Fabien Nutti, médiateur scientifique à la ville.
En fait, il allait tout simplement acheter des plantes qu'il trouvait jolies, qu'il plantait, mais sans véritable but, ni chromatique, ni plan de plantation. Sur les parements, vous voyez qu'il y a quand même des rosaces, il y a une sorte de petite symbolique qui n'appartient qu'à lui. Il y a quand même une petite recherche esthétique. En jardin, on va dire, d'agrément, pour moi, c'est le vrai bijou de la ville de Lyon. Il y a des gens qui viennent jusqu'au Mexique pour venir le voir, quoi. C'est quand même pas commun.
Chaque samedi, 400 visiteurs attendent leur tour et ressortent émerveillés.
tout est pensé, tout est au détail près.
Et ça fait un peu penser à Gaudi à Barcelone. Je pense qu'il y avait une réflexion. J'ai bien apprécié.
Surprenant tout ce qu'il a aussi à faire dans un si petit espace. C'est la minutie qui est impressionnante.
On sent que la personne a mis de la passion, de l'amour, et c'est beau. Ça valait le coup de faire la queue.
C'est original, quoi. Surtout à la Croix-Rousse, on ne s'attend pas à quelque chose comme ça.
La ville exclut d'y accueillir plus de monde, trop petit et trop fragile.
Voilà, et la visite de ce jardin Rosamir à Lyon est uniquement ouvert le samedi, ça tombe bien. Et la visite est gratuite. Encore un dernier résultat de sport à propos de l'Ultra Trail de Chamonix, remporté ce matin par le Britannique Tom Evans. Le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien le ciel est à nouveau perturbé sur l'ouest.
Oui, après une petite accalmie ce matin, c'est reparti. La nouvelle perturbation s'installe entre les pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne, avec de faibles averses et un vent soutenu. Des rafales jusqu'à 70 km à l'heure sur le Finistère, 60 le long des côtes de la Manche. Le ciel est déjà un petit peu plus nuageux sur une grande moitié ouest du pays, qui se décalera doucement. Ces nuages vont se décaler doucement vers l'est la nuit prochaine, demain et lundi, avec des averses qui seront rageuses, on en reparlera. En revanche, sur les Pyrénées et l'est, ça va rester lumineux, avec encore quelques gouttes possibles ici ou là, mais pas sur le quart sud-est qui reste au sec, avec un soleil généreux cet après-midi au prix d'un vent soutenu. Là aussi, surtout sur les caps corses où les rafales iront jusqu'à 90 km à l'heure.
Et les températures remontent.
Oui, de quelques degrés seulement, mais quand même, on reste sous les normales de saison. La moyenne va de 20 à 26 degrés de Cherbourg à Toulouse, un peu moins à Brest ou Aurillac avec 19 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée comme souvent, ou à Marseille, Nîmes et Bastia, on aura encore 28 degrés.
Les prévisions de Céline Dacosta.